traditionnellement durant le mois de novembre, le mois dans lequel nous nous trouvons, l'Église se souvient et prie pour les morts. On visite les cimetières, on y dépose des fleurs plus ou moins généreusement, des chrysanthèmes comme au pied de cet ambon qui nous rappelle cet esprit de la prière de l'Église pour les morts. Et au milieu un peu de cette grisaille du mois de novembre, eh bien, il y a cet évangile qui nous apporte cette lumière fulgurante, ce rappel de ce qui fait le cœur de la foi chrétienne, la résurrection. Saint Paul nous dit que si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes les plus malheureux des hommes. Et pourtant, Saint Paul a fait l'expérience, comme Jésus, dans l'épisode qui nous est raconté ce matin, de la difficulté à faire comprendre ce qu'est ce mystère de la résurrection, surtout la vérité de ce mystère. Car bien sûr, beaucoup d'éléments de ce mystère nous échappent, mais la vérité de notre foi. Nous nous souvenons en particulier, lorsqu'il a parcouru Athènes dans tous les sens, cet épisode nous est raconté au chapitre 17 des Actes des Apôtres, et qu'il se trouve devant ces philosophes sceptiques, devant lesquels, à force de radoter, on le traite de radoteur, il va devoir s'expliquer ouvertement. Qu'est-ce que c'est que ce perroquet ? C'est le terme aussi qui est utilisé. Qui annonce des divinités nouvelles, parce qu'en effet, il parlait d'un certain Jésus et de résurrection. Et nous savons que Paul va entraîner, lorsqu'il va essayer de témoigner devant ces philosophes païens de la résurrection, il va recueillir moquerie, scepticisme et rire. Une infime partie de ceux qui l'écoutent vont se laisser toucher par ce message. Oui, il n'est pas facile, bien sûr, de parler de quelque chose que nous ne connaissons pas, et que pourtant le Christ rappelle avec une force et une vigueur que nous ne pouvons pas éluder. Ce matin, dans cet épisode, où nous voyons des Sadducéens qui jouent les gens pieux, gentils, qui viennent interroger le maître, sauf que quelques versets plus tôt, nous avons lu dans le même évangile de Luc qu'il cherche en fait à lui tendre un piège, évidemment, piège dans lequel le Christ ne tombera pas et qui clouera le bec définitivement à ses adversaires, comme nous le dit le même évangile dans le verset qui poursuit l'évangile de ce matin. Oui, parler de la résurrection, c'est parler en fait de quelqu'un. Quelqu'un qui s'est dit être lui-même la résurrection et la vie. Parler de la résurrection, ce n'est pas simplement décrire un phénomène qui nous est particulièrement extraordinaire et étrange, à savoir que quelqu'un qui était mort se retrouve vivant, et nous ne savons pas comment l'expliquer. C'est beaucoup plus que cela. En christianisme, parler de la résurrection, c'est parler du Christ qui lui-même, premier-né d'entre les morts, comme nous dit Paul, est passé par cette expérience de la mort et de la résurrection et qui est donc à jamais vivant. Parler de la résurrection, c'est parler de notre lien indestructible avec le Christ vivant. Car ce germe de résurrection, nous le portons déjà tous en nous, de par notre baptême. De par notre baptême par lequel chaque personne de la Trinité nous a adoptés. Chaque personne de la Trinité, c'est-à-dire ce Dieu éternel, à jamais vivant. Oui, il est bon de ne pas réduire la résurrection à un simple phénomène. sinon on se fourvoie très vite. Il est intéressant de remarquer que dans les deux affirmations solennelles de notre foi, que sont les deux credos, celui que nous chanterons tout à l'heure, la version longue de Nicée-Constantinople, dans lequel nous confessons « Je crois en la résurrection des morts ». Des morts, terme assez vague. La version courte, qui est illustrée par Nostal, dit quelque chose de peut-être beaucoup plus percutant, parce que beaucoup plus concret pour nous, je crois en la résurrection de la chair. Je suis frappé d'entendre souvent des chrétiens exprimer leur scepticisme. C'est vraiment la chair ? C'est vraiment le corps qui va ressusciter ? Oui, parce qu'il n'y a pas de résurrection d'un esprit. Quel sens cela aurait ? Cela indique la dignité du corps. La dignité du corps qui est comme un serviteur, qui est celui, indestructiblement, sauf par la mort, par ce moment justement de violence qu'est la mort, est inséparable d'une âme qui est au service de cette âme vivante, qui exprime cette liberté de chaque personne de la façon concrète, c'est le cas de le dire, incarnée dans la réalité que nous vivons. Et il est normal que ce corps trouve pleinement sa place dans la résurrection. Nous savons bien que nous vivons dans une civilisation qui soit exalte démesurément le corps de façon hédoniste ou avec la prétention de le faire durer indéfiniment ou bien au contraire qui méprise profondément le corps. Le christianisme remet, si je puis dire, les pendules à l'heure. Le christianisme nous aide, nous stimule à prendre en compte toute la personne humaine dans sa réalité, comme Dieu l'a pensé, l'a voulu dans son dessein. Et il est donc normal que le corps trouve sa place dans la résurrection. Et nous savons bien qu'au plus profond de nous-mêmes, c'est bien notre désir. Car ce qu'il y a certainement de terrible dans la mort, c'est de faire ce constat de la dissolution de son être de chair en particulier, outre, bien sûr, l'inconnu que nous ouvre cette perspective de la mort. Mais justement, pour le chrétien, nous savons qu'elle n'est pas le dernier mot. Et saint Paul, là encore, a des paroles extrêmement fortes dans sa lettre aux Romains au chapitre 14. « Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous vivons et nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. » En fait, il n'y a rien, pas même la mort, comme il le dit ailleurs, qui puisse nous séparer du Christ vivant. Voilà notre foi, voilà notre espérance, que Jésus lui-même a résumé en ces termes devant les Sadducéens, « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, et tous vivent en lui. » En lui et pour lui, plus précisément.